ministère du diable, c'est pas seulement de tenter puis d'inciter les croyants à pécher. Je dirais même que ses principaux efforts tendent plus à les séduire pour leur donner de fausses conceptions de Dieu, de l'Esprit puis de son ministère. Être séduit, ça veut dire être amené à croire à l'erreur. C'est tout simple que ça. Les chrétiens sont certainement pas à l'abri de ça. En Job 2.1, ça dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Bon, Satan a toujours aimé s'associer au peuple de Dieu puis se mélanger avec eux autres. Alors, faut pas être surpris si on retrouve de l'extravagance dans certains milieux évangéliques. Maintenant, on retrouve surtout de cette extravagance-là chez ceux qui recherchent trop avidement des expériences spirituelles. On va parler premièrement du faux esprit avant d'arriver aux prophéties. On ne peut pas prendre pour de l'argent comptant toute manifestation spirituelle. On pourrait citer le cas de Saül, qui a eu des transports au milieu de sa maison, c'est-à-dire qui a prophétisé, nous dit la traduction King James. En examinant le contexte de ce passage-là, il semble très clair que ces transports prophétiques-là étaient étroitement liés à l'esprit malin qui le tourmentait. Paul a enseigné aussi en 2 Corinthiens 11:4 qu'il existait bel et bien un autre esprit. Il en a parlé aussi en 1 Corinthiens 2:12 en disant « Or nous, les chrétiens, entre parenthèses, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » C'est donc possible à des hommes qui sont pas nés de nouveau de recevoir autre chose que l'esprit de Dieu. Moi je dis même que les chrétiens doivent faire bien attention, on n'est pas à l'abri d'être influencé par l'esprit du monde non plus. L'ennemi pousse beaucoup de chrétiens à dire des paroles ou à poser des gestes tout à fait déplacés quelquefois, croyant que ça leur a été inspiré par le Saint-Esprit. Il y a 1 Jean 4:4 qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » L'apôtre Jean parlait des faux prophètes qui essayaient de séduire l'Église par leur enseignement. Le verbe « vaincre » ici est synonyme de « discerner, identifier, puis de démasquer ». En passant, la définition du mot « discerner » est intéressante aussi. C'est se rendre compte précisément de la nature, de la valeur de quelque chose aussi. Alors, faire la distinction entre deux choses mêlées et confondues, voilà la définition du discernement. Si Dieu le veut, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette petite étude-là. En 2 Thessaloniciens 2:11, Paul a écrit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Remarquez les mots « une puissance ». Bon, c'est quoi au juste cette puissance d'égarement-là dont parle Paul? Jésus avait aussi dit à ses disciples, en parlant du Saint-Esprit, « Vous recevrez une puissance » en acte 1-8. Alors, il est logique de croire que la puissance d'égarement soit quelque chose qui ressemble au Saint-Esprit. Au lieu de conduire les croyants dans toute la vérité, comme devait le faire le Saint-Esprit, la puissance d'égarement allait justement faire le contraire, puis enfoncer les gens rebelles dans l'erreur. Ce qui est sûr, c'est que cet esprit-là est interprété comme un signe d'approbation par ceux qui le reçoivent. Alors pourquoi c'est appelé une puissance d'égarement? Parce que ça porte les gens à négliger leur sanctification, puis à regarder les dons comme un signe d'approbation de Dieu dans leur vie, alors que ça, c'est pas synonyme du tout. Charles Foster a dit, « Quand la doctrine de l'esprit ou l'expérience de l'esprit passe avant le salut, la séduction est certaine. » Fin de citation. Il y a une différence entre faire l'expérience du salut puis faire une expérience spirituelle seulement. Trompez-vous pas. Des faux chrétiens puis des faux dons, des faux signes, ça a toujours existé puis ça va toujours exister. L'Église ne doit jamais cesser d'exercer un discernement à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis, peu importe la confession religieuse à laquelle un homme appartient, peu importe aussi le nombre d'erreurs théologiques auxquelles il peut encore adhérer, s'il est sauvé, s'il aime vraiment Dieu dans son cœur, celui-là est connu de lui, dit l'Écriture. Dieu juge les hommes à leur cœur, pas à l'exactitude de leur théologie. Quand Dieu veut éprouver le salut d'un homme, il n'examine pas son credo, mais d'abord la pureté de son cœur, de sa sincérité et l'authenticité de sa foi en Jésus-Christ, puis son expérience de la grâce, ce qui est très, très important. On va parler maintenant des faux prophètes. Il y a dans la Bible 3 sortes de faux prophètes. Il y a les prophètes païens qui parlaient au nom de leurs idoles. On en a des exemples en Deutéronome 18-20, 1 Roi 18-19, Jérémie 2-8. Il y a aussi également les faux prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Ceux-là, ben, se divisaient en 2 classes. Il y avait les imposteurs conscients qui revendiquaient le don de prophétie pour la gloire personnelle, pour l'argent. Ceux-là étaient souvent réputés pour leurs paroles agréables. Vous lirez Michée Jacques 3.11 par exemple. Deuxièmement, il y avait les hommes pieux et même sincères, mais qui se séduisaient eux-mêmes en ce qu'ils n'avaient pas réellement été appelés au ministère des prophètes ou simplement qui allaient au-delà de leur don. Ça fait qu'ils étaient souvent faillibles. En Sophonie 3.4, Dieu dit d'Israël que ses prophètes, pas ses faux prophètes, mais ses prophètes, sont téméraires et infidèles. La témérité mène toujours à l'infidélité. Téméraire, ça veut dire imprudent, audacieux et irréfléchi, autrement dit mature. Ça ne dit pas vraiment qu'ils étaient des faux prophètes, je répète, mais seulement qu'ils étaient téméraires. Remarquez que le résultat est à peu près le même au bout de la ligne, par exemple. C'est de cette dernière catégorie-là que j'aimerais parler un petit peu plus longtemps. Parmi cette catégorie se trouvent souvent des hommes possédés d'un amour authentique pour Dieu, OK? Puis animés d'un désir réel d'édifier l'Église. L'ignorance qu'ils ont produit mauvais discernement, qui leur font commettre des erreurs de jugement plus ou moins importantes, en pensant que Dieu leur a dit des choses qu'il leur a jamais dit en réalité. Puis ils essayent de diriger les gens ou l'Église avec ça. Ces frères-là peuvent être aussi classés dans la catégorie des prophètes aux paroles agréables. Ces prophètes-là arrivent rarement avec des corrections. J'ai vu ça souvent, ils arrivent généralement dans les églises avec des belles promesses pour tout le monde. Ils disent à un, si t'es fidèle, le Seigneur va t'établir bientôt sur quelque chose de grand, hein? Il va t'appeler bientôt de grandes choses. D'autres, ils disent, si t'es fidèle, le Seigneur va te donner des grands dons, il va t'utiliser bientôt puissamment, que j'ai donc entendu ça. Ou bien, le Seigneur me montre que vous allez avoir bientôt un grand réveil spirituel dans votre église, etc., etc., etc. Quand ces prophètes-là quittent l'Église, tout le monde est heureux, puis tout le monde est encouragé, mais tout le monde est trompé la plupart du temps aussi. Ces hommes-là sont souvent malheureusement dénués sans eau, comme dit l'Écriture. Ils promettent des choses à la place de Dieu qui ne s'accomplissent pas. Souvent, pour ne pas être taxés de faux prophètes, si leur prophétie ne s'accomplit pas, ils mettent des conditions à la prophétie pour bien se dégager de toute responsabilité. Il souligne bien les conditions de la prédiction comme « si tu es fidèle, le Seigneur va faire telle ou telle chose ». Bon, comme il n'y a jamais personne qui peut être fidèle à 100%, ça leur fait toujours une raison pour expliquer pourquoi leurs prophéties ne s'accomplissent pas. Puis ils échappent à l'opprobre d'être traités de faux prophètes. Mais Dieu ne fait pas marcher les gens comme ça en leur mettant toute la responsabilité sur les épaules. C'est sûr qu'il faut s'efforcer d'être fidèle à Dieu. Il faut faire notre part des choses, mais c'est Dieu qui a la responsabilité de former lui-même les gens qu'il veut employer. Paul a écrit lui-même en 1 Timothée 1.12 « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » On voit que la responsabilité du succès d'un ministère dépend de notre fidélité, oui, mais il dépend avant tout de Dieu qui nous fortifie. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, il va nous donner lui-même ce que ça nous prend pour remplir ce ministère-là. D'ailleurs, Paul dit encore que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Les prophéties conditionnelles, comme on vient de voir, sont encourageantes sur le moment. Mais ils ont pour résultat souvent de désillusionner des chrétiens, même des églises entières. J'ai entendu parler d'une jeune chrétienne, mais qui était très engagée dans son église, dans un ministère de chant. Un jour, il y a eu un de ces fameux prophètes qui est venu lui prophétiser que le Seigneur avait de grandes choses pour elle très bientôt, que son ministère allait exploser. Dieu lui avait parlé, la jeune fille était contente, puis elle serrait la prophétie dans son cœur, mais elle attendait, puis elle a attendu, puis je ne sais pas comment donner, puis rien ne s'est jamais réalisé. Elle a fini par retourner dans le monde, désillusionnée, sachant pas. C'était elle qui avait été infidèle quelque part, c'était Dieu qui l'avait trompée. Un espoir différé rend le cœur malade, dit l'Écriture. Mais comme il dit aussi en Ézéchiel 13.6, ils font espérer que leur parole s'accomplira. C'est très mauvais, ça. Autrement dit, ils donnent de fausses espérances qui se changent en amertume plus tard. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'elle était finalement revenue à l'Église, cette jeune fille-là. Je rends gloire à Dieu pour ça. N'empêche qu'elle a dû souffrir des années de temps à cause de cette histoire de prophétie-là. Si le supposé prophète lui avait pas fait promesse à la place de Dieu, ça ne serait pas arrivé, ça. Elle aurait probablement toujours resté dans son église, à remplir son petit ministère de chant, bien humblement, puis bien heureuse comme ça, en plus. Comprenez-vous? En Jérémie 14, 13, 14, il est écrit, « Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point de paix, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. » Encore une fois, il n'est pas question de faux prophètes, littéralement, d'imposteurs, là, mais de jeunes qui allaient plus loin que leurs dons. À cette époque-là, Israël s'était éloigné des voies de Dieu. Dieu avait établi Jérémie pour mettre le doigt sur leurs péchés, puis les avertir des conséquences s'ils ne revenaient pas de leur bon sens. Mais contrairement à Jérémie, certains prophètes leur annonçaient le bonheur et la bénédiction de Dieu à la place. Bon, ils trouvaient peut-être le message de Jérémie un petit peu trop négatif à leur bout, puis ils pensaient qu'encourager les gens, ce serait mieux. Mais il y a un temps pour l'encouragement, oui, mais il y a un temps pour la correction aussi, quand ça dépasse les limites. Il y a des prédicateurs qui confrontent jamais les problèmes réels qu'il y a dans l'Église, des problèmes qui sont là depuis très longtemps. Tout va bien, tout est beau, parlons pas des problèmes, là, c'est trop négatif. On préfère conduire le peuple de Dieu dans les chants, puis dans louange, puis dans danse, puis en organisant des pique-niques, puis je sais pas quoi encore. Alors moi, les chants puis la louange, je suis bien d'accord avec ça. On peut pas toujours faire rien que ça, par exemple. Salomon a dit, « Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. » Ecclésiaste 7.5. Le véritable avancement spirituel d'une église dépend de sa capacité à s'ajuster à la volonté de Dieu. C'est pour ça que les véritables prophètes vont chercher à faire maturer l'Église, en l'édifiant, oui, mais aussi en la corrigeant de temps en temps, et non en lui faisant des promesses en l'air tout le temps. Je ne dis pas que Dieu ne fait jamais de promesses agréables à quelqu'un, à travers une de ces personnes-là. Le désir sincère là, d'être utilisé par Dieu pour apporter une parole d'édification, puis de consolation, et quelquefois honoré par Dieu d'une réelle onction du Saint-Esprit, qui bénit puis qui réconforte vraiment celui à qui la parole est adressée. On a prophétisé des choses très positives à propos de Jean-Baptiste, par exemple. Quand il est né, Zacharie a dit qu'il serait prophète, puis qu'il serait grand devant Dieu, puis qu'il préparerait même le chemin du Messie. Dieu est un bon Dieu, puis il réserve beaucoup de bonnes choses à ses enfants. C'est un fait. On fait bien de voir Dieu comme ça. Je connais des chrétiens, dont moi-même, qui ont été bénis, fortifiés par des paroles très positives de la part du Seigneur, par l'entremise d'un frère ou d'une autre sœur. Mais souvent, l'ennemi nous fait des promesses agréables qui ne s'accomplissent pas uniquement pour nous jeter dans la condamnation, puis la culpabilité de ne pas avoir été assez fidèle, puis d'avoir manqué les bénédictions de Dieu par notre faute ensuite. Les fausses promesses agréables finissent par produire une tristesse qui peut mener à la mort. Une autre raison pour laquelle il faut se méfier des promesses prophétiques agréables, c'est qu'elles peuvent nous éloigner de la sanctification. Par exemple, la prospérité financière, ça revient souvent dans les prophéties. Il y a des croyants qui ont déjà un problème d'avarice dans leur vie. Il y en a d'autres qui ont déjà tout ce qu'il leur faut financièrement. Ils arrivent mal dans leur budget, quand même. Parce qu'ils utilisent. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent très mal leur argent. Puis voilà un prophète qui s'amène et qui leur dit que Dieu va les bénir financièrement puis va combler ce qui leur manque. Moi, je comprends mal que Dieu nourrisse leurs péchés encore davantage. Parce que c'est ça en réalité. Dieu avait peut-être déjà parlé à ces chrétiens-là à propos de leurs problèmes avec l'amour de l'argent, puis après ça, ils se disent probablement, « Bon, ben, je pensais que Dieu me parlait moi, à ce propos-là, mais s'il me promet de me bénir financièrement encore, ben, ça doit vouloir dire que je n'avais pas raison de m'en faire. Comprenez-vous où je veux en venir? » Les gens sont amenés à négliger leur sanctification. À force de courir après la carotte, on en oublie où on s'en va. Comprenez-vous où je veux en venir, là? Écoutez bien, les vraies paroles de Dieu ne seront pas toujours agréables, mais elles vont toujours être vraies, par exemple. Puis elles vont toujours concourir à notre plus grand bien dans le Seigneur. La vérité, c'est que les pasteurs puis les églises ont souvent besoin d'être corrigés sur certains points, puis d'être dirigés toujours davantage au centre de la volonté de Dieu. Les corrections sont donc d'une valeur inestimable pour l'intérêt spirituel de tout le monde dans l'Église. Elles sont bien plus précieuses que les fausses paroles d'encouragement. Savez-vous c'est quoi un vrai prophète? C'est une machine à édifier, mais c'est aussi un empêcheur de tourner en rond. C'est une épée à double tranchant. Le prophète est un séparateur. Il tranche en ce qui est charnel, en ce qui est spirituel. entre ceux qui servent Dieu d'un cœur pur, puis ceux qui le servent avec des motifs impurs. C'est quelqu'un qui appelle très souvent le peuple de Dieu à la repentance. Alors, c'est pas quelque chose de bien populaire, évidemment. Les prophètes sont pas là pour se faire des amis, de toute façon, mais pour dénoncer des erreurs puis des abus. C'est pour ça que les prophètes de la Bible passaient pour des faiseurs de troubles. Michael Card a dit que le vrai prophète, c'est pas tellement celui qui va prédire l'avenir, mais celui qui va parler pour changer le présent. Fin de citation. Un évangéliste pentecôtiste racontait qu'aux États-Unis, il y avait une certaine petite église. À un moment donné, durant une réunion de prière, celui qui dirigeait la chorale a prononcé une prophétie. La prophétie disait que le frère qui jouait du piano devait être remplacé par tel autre frère. Un petit peu plus tard, durant la réunion, celui qui jouait du piano puis qui venait de se faire jeter dehors, qui venait de perdre sa job, il a eu une prophétie lui aussi. Sa prophétie disait que le frère qui dirigeait la chorale puis qui venait de lui enlever son ministère par prophétie devait être remplacé par un autre également. Pas une blague, ça s'est arrivé pour vrai, ce que je vous dis là. Ça nous fait sourire des choses comme ça, mais en réalité, c'est vraiment triste de voir des gens fonctionner selon la chair à ce point-là, puis se croire remplis du Saint-Esprit, puis parler au nom de Dieu. Ces frères-là ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de prophétiser selon les désirs de leur cœur, en réalité. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas comme ça partout chez les groupes à caractère charismatique. C'est pas tout le monde qui fait un usage aussi abusif du don de prophétie. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu peut venir déposer une onction spéciale sur une personne pour lui mettre un message dans le cœur de la part de Dieu pour l'Église ou pour une personne en particulier. J'y crois parce que la Bible en parle et parce que j'ai déjà vu ce genre de choses-là arriver. Au début de ma vie chrétienne, je suis allé à un ralliement d'église pentecôtiste à Drummondville. Il y avait environ 500 personnes dans l'auditorium où on était. 500 personnes qui prient à haute voix puis qui rendent des actions de grâce, ça fait pas mal de bruit, je peux vous dire ça. Tout d'un coup, l'esprit de prophétie est descendu sur une jeune fille. Ce qui m'avait énormément étonné, c'est la première fois que je voyais ça, c'est que tout le monde avait senti en même temps que le Seigneur voulait parler. J'étais là. On sentait qu'il y a quelque chose qui allait se passer, là. Toute l'assemblée a baissé le ton comme un seul homme. Avant même qu'elle ouvre la bouche, la jeune fille nous dit, de la part de Dieu, que le Seigneur revenait bientôt, puis qu'on devait prendre courage, puis de persévérer dans la foi. C'est pas tellement les paroles qu'elle a dites qui est extraordinaire, mais l'esprit d'édification, d'exhortation puis de consolation qui était derrière ces paroles-là. Waouh, c'était quelque chose. À cette époque-là, j'étais tout jeune chrétien, j'étais à Victoriaville puis j'avais même pas d'église. C'était dur pour moi, mais je peux vous dire que de cette parole-là m'avait beaucoup, beaucoup fortifié. Je peux malheureusement pas dire que j'en ai entendu beaucoup de prophéties comme ça dans ma vie. Beaucoup de supposées prophéties aujourd'hui sont souvent plates, disons-le, et pas édifiantes du tout. Il y a ceux qui vont d'église en église, puis qui prophétisent des réveils pour encourager les petites églises qui commencent. Mais ces réveils-là arrivent presque jamais. Je ne dis pas que les gens qui font ça sont méchants, je dis seulement qu'ils n'ont pas encore le discernement de faire la différence entre la volonté de leur propre cœur puis le véritable esprit de prophétie. C'est simple comme ça. L'Église en est pleine de pauvres frères comme ça, qui ont tendance à entendre un peu tout ce qu'ils aimeraient entendre. Ça peut arriver qu'un homme ressente que Dieu voudrait qu'il y ait un réveil dans telle ou telle Église, mais ça ne veut pas dire qu'il en a fait la promesse, par exemple, il faut comprendre ça. Il y a 1 Corinthiens 12, 2, où Paul a écrit, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Par prophétie, entre guillemets. Les faux prophètes païens, qui étaient les prophètes de ces idoles-là, dirigeaient leurs adeptes par le biais de prophéties. Ces soi-disant prophéties vantaient les mérites des idoles pour mener les Corinthiens à leur rendre un culte. Avant d'être croyants, les Corinthiens se laissaient conduire par ces prophéties-là. Même aujourd'hui, dans l'Église, Dieu ne demande pas à personne de se laisser conduire aveuglément. En Ésaïe 9,15, il dit que ceux qui se laissent conduire se perdent. Le diable aime les aveugles. Puis il déteste que les gens fassent preuve de discernement. Il existe une contrefaçon satanique du don de prophétie, comme chez les Corinthiens. Mais c'est pas ça qui est vraiment dangereux pour l'Église aujourd'hui, ici, en Amérique du Nord. Je vais vous dire ce qui est le plus inquiétant dans l'Église, ce sont les contrefaçons humaines. Laissez-moi vous donner un bon conseil, mes amis. Soyez pas trop rapides à accorder foi à tout ce qui a l'air d'une prophétie. Un pasteur pentecôtiste que j'ai bien connu, puis qui occupait déjà le ministère depuis 16 ans, m'a dit un jour que s'il pouvait rassembler Il me l'a confié, il ne le prêchait pas, mais il me l'a confié en particulier. Parce qu'il pouvait rassembler toutes les fausses prophéties qui ont mal conduit, trompé ou égaré des croyants durant son ministère, ben, il pourrait écrire un livre qui aurait l'épaisseur de l'annuaire téléphonique de Montréal. Je ne dis pas que Dieu parle jamais par prophétie. Je dis simplement d'être prudent. Prenons-en puis laissons-en. À l'époque du prophète Jérémie, la qualité spirituelle des prophètes et de leurs prophéties était tellement basse en Israël qu'il a dû à un moment donné prendre carrément position contre la majorité des autres prophètes de son époque. En Jérémie 23, 16, on le voit, il dit « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Ça, c'est très subtil comme différence. Parce que l'homme qui prophétise, on voit bien qu'il ne vient pas du diable. C'est un homme qui peut être pieux. Puis en même temps, il nous dirige dans une direction qui serait mauvaise. Il faut être très prudent, il faut faire attention. Parce que souvent, ce n'est pas la méchanceté qui pousse ces hommes-là à prophétiser. Ce n'est que la témérité, le manque d'expérience, le manque de discernement, le manque de connaissance de la volonté de Dieu aussi. Remarquez encore le mot « entraîner » qui revient ici, là, qui veut dire « entraîner » à l'égard, à l'écart de la volonté de Dieu, ou de sa volonté parfaite. À propos du don de prophétie, Paul a écrit en 1 Corinthiens 14, 23. « Si donc dans une assemblée de l'Église, tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. » On voit que le don de prophétie avait un énorme pouvoir pour convaincre de péché. Pas d'une façon culpabilisante, mais de façon à amener l'homme à la repentance. Notre texte continue. Il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Quelquefois, le Seigneur nous montre des choses à propos de l'état spirituel d'une personne qui n'a rien de plus pitié qu'il pouvait savoir. Ça a pour effet de provoquer la conviction du Saint-Esprit dans son cœur puis de l'amener à laisser Dieu travailler dans sa vie. Si quelqu'un vous donne une parole qui vous amène à adorer Dieu puis à le laisser faire un petit ménage dans votre vie, ça vient certainement pas du diable. J'ai pas fait ce message-là pour trancher la question non plus puis dire que toutes les prophéties viennent de Dieu ou qu'elles viennent toutes du diable. Je pense qu'il n'est pas sage de limiter Dieu, de le mettre dans une petite boîte, là, puis de mettre une petite étiquette dessus, puis d'entreposer ça pour l'éternité, là, jusqu'au jugement dernier. L'ignorant dit en lui-même, ce que je ne connais pas n'existe pas. Et on sait que Dieu travaille de façon très, très diverse, puis ça, il faut en tenir compte. Les différentes formes du don de prophétie sont vraiment des moyens dont Dieu se sert pour parler, puis édifier son peuple. Le don de prophétie est un don d'inspiration, puis l'inspiration transmet la connaissance spirituelle, puis le sens de la proximité de Dieu surtout, ce qui est très très positif. Il n'est pas bon d'être incrédule, puis il n'est pas bon d'être trop naïf non plus. De façon générale, il y a beaucoup plus de prophéties, entre guillemets, d'origine humaine dans l'Église que d'origine divine. C'est pour ça que je dis faites attention, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'abus là-dedans. Dieu s'en sert, puis l'homme s'en sert aussi, malheureusement. Quoique le don de prophétie d'un certain croyant puisse être authentique, ça ne veut pas dire qu'il soit exempt d'erreur, par exemple. L'élément humain joue malheureusement son rôle. Dépendamment du degré de maturité de l'instrument, la qualité de l'inspiration va être très relative. D'où l'exhortation de Paul en 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. D'autres traductions ont rendu ce texte-là comme ça. Éprouvez tout ce que les prophètes disent. Traduction Conybeare. Traduction Knox a rendu « Ne méprisez pas les prophéties, mais vous devez les scruter soigneusement. Retenez seulement ce qui est bon. » La Bible de Jérusalem a traduit simplement par « Vérifiez tout. » Alors, je pense que c'est très significatif, ça. Pourquoi Paul a dit ça? Parce que même si l'Esprit-Saint est parfaitement pur, les instruments qu'il utilise ne le sont pas. Plus le croyant est mature et sanctifié, plus son don va être pur aussi. Il faut donc retenir seulement ce qui est biblique, ce qui est édifiant, ce qui est vrai, puis ce qui n'est pas dommageable pour notre vie spirituelle. La maturité, l'expérience, puis la connaissance éliminent les impuretés humaines. On est des êtres humains plus qu'imparfaits, puis on va l'être jusqu'à notre mort. Faites-vous pas de délusions là-dessus. N'oublions jamais que l'autorité suprême en matière d'enseignement et de direction, ça restera toujours la Bible, puis le Saint-Esprit, pas les révélations ou les prophéties. En Révélation 11, 3, il est écrit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Il est donc nécessaire ici d'avoir reçu une onction de la part de Dieu pour prophétiser. Si l'onction n'est pas là, on peut seulement reproduire produire des imitations. Dieu seul sait combien il y en a eu, puis qu'il va en avoir encore des fausses prophéties, puis des faux sermons qui vont enseigner l'erreur au nom de Dieu, puis qui vont envoyer des chrétiens dans toutes sortes de directions, qui vont les appeler à déménager, ou à donner leur compte en banque, ou à faire toutes sortes de folies semblables. Bon, parlons maintenant de ceux qui se font imposer les mains. Il n'y a rien de mal à mettre ses mains sur la tête de quelqu'un puis de prier pour lui. On voit que ça se faisait dans le Nouveau Testament. Mais lorsque la personne tombe par terre, se met à trembler, puis à gigoter, puis à venir tout croche, puis à tomber dans des convulsions, là, bien, vous ne me ferez pas voir Dieu là-dedans. Maintenant, ces choses-là, ça arrive aux chrétiens qui ouvrent leur esprit sans aucune défiance, puis qui pensent que toute émotion agréable, puis que toutes les expériences surnaturelles, bien, ça vient toutes de Dieu. Il y a des croyants qui sont ouverts à n'importe quoi, c'est pas compliqué. Fait que des fois, c'est Dieu qui les bénit, puis d'autres fois, c'est l'ennemi qui tire avantage de leur ignorance. Résultat, leur Église passe pour un tas de fanatiques aux yeux du monde. Puis le monde a raison. On ne semble pas réaliser que ces choses-là attirent un discrédit sur l'Évangile. Il y a deux raisons dans la Bible où on voit que les gens tombaient par terre. Premièrement, c'est lorsque Jésus rencontrait une personne qui avait un démon. C'est pas le Saint-Esprit qui le faisait se rouler par terre. C'était l'esprit mauvais qui était entré en eux autres. Deuxièmement, il y a les fois où les prophètes avaient une vision. Ils se retrouvaient devant Dieu tout d'un coup, puis ils tombaient par terre comme morts. Ils tombaient sous l'effet de la présence de Dieu sur eux autres. Quand John Wesley prêchait, il arrivait fréquemment aussi que les gens tombaient par terre sous l'effet de la conviction, puis de la présence du Saint-Esprit. Il y a aussi Jonathan Edwards, au 18e siècle, qui fut le principal artisan du réveil en Angleterre. L'histoire rapporte qu'il arrivait que des gens s'évanouissent durant ces réunions. Je lisais récemment dans le précis d'histoire de l'Église de J.M. Nicole à propos d'un jeune homme appelé George Fox au 17e siècle. Après être devenu croyant, je cite, il se mit à prêcher partout avec beaucoup d'ardeur. Devant ses appels véhéments à la repentance, ses auditeurs étaient fréquemment saisis de tremblements, d'où leur nom, les Quakers, c'est-à-dire les tremblants. Fin de citation. Bon, on sait qu'il y a des manifestations qui viennent de Dieu, puis d'autres qui viennent de l'ennemi. C'est drôle, mais moi je trouve que la différence, c'est pas tellement difficile à faire que ça. Moi je dis qu'il s'agirait seulement de mettre l'Église en garde contre les fausses expériences pour régler le problème. Les gens se mettraient à filtrer un petit peu plus ce qui leur arrive, puis l'ennemi pourrait plus agir à un moment donné. Il y aurait beaucoup moins de manifestations chez les groupes à caractère charismatique, mais ceux qui y auraient seraient peut-être un petit peu plus authentiques, par exemple. Le fond de la question, c'est celle-ci. Es-tu prêt à faire entrer même le diable dans ton église juste pour avoir du miraculeux? Faites ce que vous voulez, mes amis, mais je pense qu'il serait plus sage d'exercer une certaine discipline à ce niveau-là. Il y en a qui vont peut-être s'indigner puis dire « Ah, on n'est pas pour faire ça, on pourrait empêcher Dieu d'agir. » Ben, pas à leur donner à ceux qui parlaient en langue de se taire dans l'église, s'il n'y avait pas d'interprète, pour pas scandaliser les inconvertis. L'église est appelée à ne pas se complaire en elle-même. Puis à penser plutôt à son témoignage devant le monde. Si Paul jugeait sage de censurer le don des langues, qui était à l'époque tout à fait authentique, à combien plus forte raison on devrait censurer des manifestations, aujourd'hui, dont l'origine est encore douteuse? Pensons à ne rien faire qui soit pour les gens une occasion de chute, au lieu de penser juste à nous complaire à nous-mêmes. Les gens ne sont pas touchés par ça en voyant des gens se rouler par terre, puis venir tout croche. On pense qu'on rend un grand témoignage de puissance de Dieu. On passe pour une bande de fanatiques, c'est ça la vérité. On ne rend pas un bon témoignage. Et on ne rend pas service à Jésus-Christ ni à l'Église, au contraire. Réveillons-nous. Thomas à Kempis, un vieux croyant qui a vécu au 14e siècle environ, semble dire par expérience, plusieurs de ceux qui croyaient être conduits par le Saint-Esprit furent déçus finalement. Alors c'est pas d'hier que les croyants sont attirés par les manifestations spirituelles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans une sorte de mélancolie de ce qui est plus autant de dons dans l'Église puis de choses fantastiques comme dans l'Église apostolique. Je comprends ça. Alors, quand ils entendent parler qu'il y a quelque chose qui a l'air de sortir un peu d'ordinaire dans certaines autres églises, ça les attire comme du sucre à être attiré par une mouche, hein? Parce qu'ils disent, waouh, les dons spirituels, ça existe encore. Puis ils se lancent tête la première là-dedans, sans faire aucun discernement. Ils sont tellement heureux. les gens sont attirés par les dons spirituels, entre guillemets, puis avec raison dans un sens. Mais Jésus, en Marc 11, a été attiré par le figuier qui avait beaucoup de feuilles, puis qui laissait espérer une mesure égale de figues, mais ça n'a pas été le cas. Beaucoup de croyants dans les mouvements à caractère charismatique ont été désillusionnés de la même manière, en réalisant que les dons spirituels, qu'on disait si spirituels, étaient finalement pas si spirituels que ça. Alors le pire, c'est pas le désillusionnement. Le pire, c'est quand il n'y a pas de désillusionnement, puis que ces pauvres gens se mettent à ajouter foi à tout ce qu'ils entendent sans discernement, puis à abandonner les choses les plus importantes de la vie chrétienne, qui est la sanctification puis la charité. S'en vont dans tous les sens. Souvent, quelques-uns font des fous d'eux autres. Ça ne rend pas service au Seigneur, en réalité. Soyons sobres et revenons à la simplicité de l'Évangile. Laissons Dieu agir s'il veut agir, à la façon dont il veut agir, mais exerçons un discernement. On va parler des dons spirituels un peu. Il est commun dans certains milieux de voir des croyants qui possèdent un soi-disant don de prophétie ou la parole de connaissance, puis qui se mettent à imposer les mains sur des tas de gens puis leur dire beaucoup de choses de part de Dieu. Certaines choses sont bénissantes puis s'accomplissent. La plupart s'accomplissent jamais. Beaucoup ne s'accomplissent jamais. La précipitation, c'est pas la marque d'une marche selon l'esprit. Je vous donne un exemple. Dans une certaine église baptiste, il y avait une dame qui commençait à être très intéressée par les dons, qu'elle avait vu dans une autre église. Cette dame-là avait aucune expérience de ces choses-là, puis elle pouvait pas exercer aucun discernement réellement. Elle s'est mise à croire aux directions de l'esprit puis aux paroles inspirées. Développer de la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire. Mais c'est bien quelque chose que chaque croyant devrait cultiver. Mais cette dame-là s'est mise à croire que toutes les voix qui lui venaient dans la tête étaient des directions de Dieu. Elle se lève un bon dimanche matin, au beau milieu de la réunion, elle monte à l'avant sans être invitée, puis elle dit qu'elle sentait que le Saint-Esprit voulait qu'elle dise de donner le message suivant à une certaine famille de l'Église qui avait un enfant qui était né infirme, de plus s'en faire parce que Dieu allait sous peu guérir cet enfant-là. Comme on peut s'en douter, il n'y aurait jamais rien qui s'est passé. Maintenant, comment vous pensez que les parents de l'enfant se sont sentis après s'être fait retourner le couteau dans le plaid comme ça? On voit que c'est pas de Dieu. Ça fait que les dons, mieux vaut les opérer plus prudemment, puis moins souvent, les opérer avec réserve, puis être plus authentique, que d'essayer de fasciner les gens avec des dizaines de choses qui vont les renvoyer désillusionnés à longue échéance. Comprenez-vous? Retenez juste ça de mon étude, puis je pense que moi je serai content. On va parler maintenant des visions puis des songes un peu. En Révélation 22, 8, 9, ça dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole des livres. De ce livre, adore Dieu. Cet épisode-là dans la vie de Jean nous montre à quel point le chrétien est facile à séduire. Même le grand apôtre Jean, qui avait pourtant enseigné lui-même aux autres de se garder de l'idolâtrie, en 1 Jean 5, 21, a été tellement impressionné par l'apparence de l'ange qu'il en a oublié toute sa bonne théologie. L'ennemi sait bien que ce que beaucoup de chrétiens accepteraient jamais de croire du haut d'une chair sera souvent accepté et cru en toute hâte si la chose leur vient d'une vision ou d'une soi-disant révélation. L'ennemi sait qu'il s'agit seulement, parfois, d'épater un peu certains chrétiens, puis de tout réjouir. Ils vont croire n'importe quoi. Certains croyants sont enclins à ajouter foi à peu près n'importe quelle vision, prophétie, inspiration, qu'ils reçoivent ou que les autres disent avoir reçu. Je ne vais pas mettre Dieu dans une petite boîte encore une fois, puis affirmer que Dieu ne se révèle jamais de cette façon-là, mais la vérité, c'est qu'on est généralement beaucoup trop crédule. J'ai déjà appartenu à une église où il y avait deux personnes, entre autres, qui croyaient aux visions. Et le problème, c'est qu'ils recherchaient ces choses-là en plus. Les autres, ils ne croyaient pas qu'il pouvait exister de contrefaçon non plus. Ils croyaient que toute manifestation surnaturelle venait automatiquement de Dieu. Comme on peut s'en douter, le diable a fini par les accommoder à son goût aussi. Ces deux croyants-là étaient amis. La femme d'un des deux l'avait quitté depuis à peu près 2 ans. L'autre était marié, mais ça allait super mal avec sa femme. Il y en avait un des deux qui avait besoin d'une femme comme un fou, puis l'autre qui était pris avec une qui ne voulait plus. Une nuit, croyez-moi pas, là, une nuit, ils ont eu une vision, chacun dans leur lit, chacun dans leur maison. Celui qui était marié a vu qu'il divorçait avec sa femme, puis l'autre a rêvé qu'il se mariait avec. Croyez-moi et croyez-moi pas, nos deux types croyaient dur comme fer que leur songe venait directement de Dieu, qui leur disait comment régler leurs problèmes d'un seul coup. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça fait dur, ça. Mais c'est des exceptions, c'est des cas extrêmes, bien sûr. J'espère que vous n'allez pas croire que c'est tous les groupes à caractère charismatique qui sont comme ça. Mais ça nous permet de voir jusqu'où peut aller l'absence de discernement, par exemple. Puis ça, je tiens à le souligner. Je dois parler des visions puis des songes faux en disant que certains étaient entraînés par leur rêverie. En jeu de 8. Bon, il faut savoir que le diable peut donner des visions. On a des exemples. En Luc 4, 5, il est écrit « Le diable l'ayant élevé, lui montrera en un instant tous les royaumes de la terre. » On se souvient de l'épisode. Bon, voir tous les royaumes du monde du haut d'une montagne, même si elle est très très haute, c'est une impossibilité physique. Il est obligatoirement question ici d'une vision, peut-être semblable à celle que le prophète Daniel a eue en Daniel 7, où il a vu les différents royaumes présents et futurs de la terre. Alors on voit que le diable est capable de donner des visions. En Colossiens 2, 18, ça dit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. » C'est dangereux de s'abandonner à ses visions, c'est-à-dire d'ajouter foi à toutes les visions ou à tous les songes qu'on peut avoir ou qu'on peut entendre des autres. Il est très agréable pour la chair de se croire prophète. Puis l'ennemi peut nous accommoder volontiers de songes puis de visions, puis nous induisent dans de graves erreurs si on ne fait pas attention. La majorité des sectes, des gens extrémistes, des gens déséquilibrés spirituellement, puis des groupes à tendance fanatique, sont pratiquement tous nés à partir d'un leader qui a eu une vision ou une révélation qui n'était pas en accord avec les Écritures. Moi, je dis que même un bon chrétien, puis un vrai leader spirituel, peut être induit en erreur, même s'il aime le Seigneur, s'il se met à mettre ses révélations au-dessus des Écritures. Mettons ça dans notre livre tout de suite, puis pour toujours, la parole de Dieu a plus d'autorité que les visions, elle a plus d'autorité que les révélations, elle a plus d'autorité que n'importe quel leader spirituel, puis elle a plus d'autorité que les songes ou que toutes les prophéties. Dans certaines églises évangéliques, il y a des hommes comme ça qui disent avoir reçu une révélation du Seigneur à propos de certains versets bibliques. On ne dit pas que ça ne se peut pas, au contraire, je crois plus que personne que l'Esprit de Dieu peut donner des révélations intérieures à propos des Écritures. C'est d'ailleurs une des principales raisons d'être du Saint-Esprit que d'enseigner le croyant puis de le conduire dans les Écritures. Mais là où ça ne marche plus, c'est quand ceux qui disent avoir eu une révélation se mettent à croire qu'elle est infaillible. Ensuite, quand tu veux les corriger, ils se bouffent les deux oreilles. Puis il n'y a plus moyen de rien faire avec eux autres. Ils se placent au-dessus de toute correction parce qu'ils croient qu'une révélation, c'est quelque chose d'infaillible. Aucune interprétation biblique n'est infaillible, ni aucune révélation non plus. Il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que lorsque le Saint-Esprit essaie de nous enseigner quelque chose dans notre cœur, il reste toujours que c'est à nous autres d'interpréter la révélation intérieure, puis de donner des mots pour la traduire, puis d'en tirer une leçon. C'est souvent là qu'il y a des erreurs qui se glissent, des impuretés. Il y a toujours aussi la question de l'honnêteté. Peut-être qu'on a reçu une révélation à propos d'un certain verset, mais peut-être qu'on la modifie un petit peu pour lui donner la couleur qu'on veut aussi. Peut-être qu'elle dérange un petit peu notre vie. Les révélations ne garantissent absolument pas l'infaillibilité. Oui, l'Esprit de Dieu peut nous avoir vraiment parlé, mais oublions jamais que l'exactitude de l'interprétation qu'on en fait dépend de notre maturité spirituelle, surtout de la connaissance générale de la parole de Dieu, puis de notre honnêteté. Je réalise que le mot révélation peut faire peur un petit peu, là. Ce que j'appelle une révélation, c'est simplement quand tu es en train de lire ta Bible ou de prier, puis là, il y a un verset qui te frappe, qui devient que tu viens d'y voir quelque chose que tu n'as jamais remarqué avant, puis qui te bénit, puis qui t'édifie. C'est ça que j'appelle une révélation intérieure. Je me souviens avoir eu souvent ce genre de révélation-là dans mon cœur à propos de versets bibliques. Quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, mais aujourd'hui, après 10 ou 15 ans, ma connaissance des Écritures est évidemment plus la même. J'ai dû faire un sérieux ménage dans mes anciennes révélations, je peux vous dire ça. Avec plusieurs années de recul puis d'études de la parole de Dieu, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a bien des choses qui n'étaient pas tellement équilibrées avec certaines autres parties des Écritures. Les révélations que j'ai eues à propos de différents versets des Écritures. Je le crois que c'est le Saint-Esprit qui me les a donnés, qui me les a montrés. Je réalise aussi qu'à cause de mon manque de connaissances, je les ai plus ou moins mal interprétés, par exemple. Malheureusement, on a tous la fâcheuse tendance de mettre un peu la Bible en ligne avec nos révélations, au lieu d'ajuster nos révélations avec ce que la Bible dit. Puis on ne devrait pas avoir peur de faire ça, parce que plus qu'on avance dans le Seigneur, plus qu'on est capable de le faire, puis on devrait le faire. En conclusion, bien, je réalise que j'ai sûrement pas plu à tout le monde à travers ce message-là. Il y en a qui vont m'avoir trouvé trop sévère, d'autres pas assez. C'est pour ça que je les ai terminés sur une exhortation, que tout le monde va comprendre puis approuver. J'espère que tout ça va avoir créé un peu de crainte, par exemple, un peu de crainte de Dieu dans l'Église à propos de ces choses-là. Il est temps que tous les croyants de faire preuve d'humilité et d'exercer un franc discernement à l'égard de n'importe quel don. Puis ce que vous venez d'entendre va vous porter, comme moi, à fixer nos yeux sur les choses vraiment spirituelles, c'est-à-dire accepter l'adversité, puis porter notre croix, cultiver l'amour fraternel, apprendre à pardonner, puis à marcher fidèlement selon notre conscience, sanctifier nos motifs intérieurs, se détacher du monde, cultiver la douceur dans l'Église, au travail, puis à la maison, aimer nos femmes pour les hommes, puis être soumises à nos maris pour les dames, pratiquer de bonnes œuvres, soulager les pauvres financièrement quand c'est possible, haïr le péché, pratiquer la confession puis le renoncement au péché sous toutes ses formes. C'est ça qui est vraiment agréable à Dieu. Amen.